Parcours Cœur de Jésus. Se consacrer au cœur sacré de Jésus. Un parcours en 8 étapes proposé par le Père Martin Prader. Étape 7. Le cœur de Jésus et la vie morale.
Chers amis, nous allons aborder aujourd'hui dans cette 7e vidéo la 3e partie du catéchisme de l'Église catholique vue du point de vue du cœur de Jésus, à savoir ce qui concerne la vie morale que le catéchisme aime appeler la vie dans le Christ, la vie dans l'Esprit Saint. Il y a dans le catéchisme tout entier une sorte de structure binaire qui consiste à voir d'abord ce que Dieu nous donne en se donnant à nous à travers la révélation qui nous est communiquée par les fleuves d'eau vive des sacrements. Ce sont les deux premières parties du catéchisme qui occupent plus de 60% de l'espace de l'ensemble du catéchisme. Et les troisième et quatrième parties qui portent sur la vie morale et sur la vie de prière sont en quelque sorte le retour d'amour que le don de Dieu suscite en nous. Dans la vie chrétienne, le plus important, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est ce que Dieu fait en nous. Le plus important, ce n'est pas, j'allais dire, de donner, mais d'abord de recevoir, mais pour pouvoir ensuite donner en retour. C'est ce qu'explique le numéro 1692 du catéchisme. Le symbole de la foi a professé la grandeur des dons de Dieu à l'homme dans l'œuvre de sa création, et plus encore par la rédemption et la sanctification, c'est toute la première partie du catéchisme. Ce que la foi confesse, les sacrements le communiquent, c'est la deuxième partie du catéchisme. En reconnaissant dans la foi leur dignité nouvelle, les chrétiens sont appelés désormais à mener une vie digne de l'évangile du Christ. Ceci, c'est la troisième partie du catéchisme. Par les sacrements et la prière, quatrième partie du catéchisme, ils reçoivent la grâce du Christ et les dons de son esprit qui les rendent capables. Autrement dit, dans la perspective qui est la nôtre, celle du cœur de Jésus, il s'agit, sous la mouvance de l'Esprit Saint, de se laisser conformer progressivement aux dispositions du cœur doux et humble de Jésus, qui nous est communiqué notamment dans l'Eucharistie, pour pouvoir précisément entrer dans les dispositions de ce cœur filial et fraternel, qui se donne tout entier au Père et à nous. Alors, je voudrais développer donc, ce qui concerne plus particulièrement la troisième partie du catéchisme en deux temps, en reprenant tout d'abord ce qu'on appelle la théologie fondamentale, un peu les fondements mêmes de la vie morale conçue comme vie dans le Christ et vie dans l'Esprit Saint, du point de vue du cœur de Jésus, et dans un deuxième temps, de voir comment cela se décline à travers les commandements, et notamment ce double commandement de l'amour filial et fraternel, qui résume tous les commandements, comme nous le dit Jésus dans l'Évangile. Je commence tout d'abord par parler du cœur de Jésus comme le lieu même de l'accomplissement de la loi d'amour du Père, ce qui se décline encore une fois sous la forme du double commandement. Comme le souligne le catéchisme, l'Église reçoit du Christ la loi nouvelle, non plus écrite sur des tables de pierre, mais gravée par l'Esprit Saint dans le cœur des croyants. C'est l'introduction à la troisième partie du catéchisme. Ainsi, le Christ donne la force de vivre selon la vie nouvelle. Il vient accomplir en nous ce qu'il a commandé pour notre bien. Le Christ veut vivre en nous ce qu'il a commandé et ce qu'il a vécu pour notre bien, pour la gloire du Père et pour le salut du monde. Contre tout rigorisme et tout laxisme, la vie morale ne peut en effet être comprise que comme vie dans le Christ et vie dans l'Esprit Saint, mieux comme union au cœur de Jésus qui accomplit la loi d'amour du Père. On l'a souvent dit, les révélations de Paray le Monial et la dévotion au cœur de Jésus qui en a été le fruit, ont été, dans le contexte du XVIIe et du XVIIIe siècle français, vus comme un remède au jansénisme. Mais on peut dire aussi qu'elles ont été proposées également comme un remède au libéralisme ou au libertinage, à la fois théorique et pratique, qui marquait bien souvent les élites françaises en cette fin de XVIIe siècle et au cours du XVIIIe siècle, celui qu'on a appelé le siècle des Lumières. Contre tout rigorisme et tout laxisme, Jésus, et lui seul en effet, rend dans son cœur doux et humble le fardeau de la Torah accessible à tous et plus particulièrement aux petits et aux humbles qui se mettent à son école. Alors, je voudrais tout d'abord parler du cœur de Jésus comme le cœur de la vie morale, au fond, dans l'Église, et ensuite de l'Esprit-Saint comme celui qui est justement au cœur du cœur du Christ, eh bien, vient nous donner de vivre les exigences mêmes du Christ. Donc tout d'abord, la vie dans le Christ, la vie dans le cœur de Jésus. Le passage de l'Évangile où Jésus parle de son cœur, le seul d'ailleurs, en Matthieu 11, versets 25 à 30, est d'une extrême densité. Jésus y enseigne qu'en lui, le fardeau de la Torah, hein, qui se réduit finalement au double commandement de l'amour, devient léger parce que Jésus, précisément, l'accomplit dans son cœur d'homme brûlé par le feu de l'Esprit. Cette révélation du Christ, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, mettez-vous à mon école, devenez mes disciples et vous trouverez le repos », cette révélation n'est pas destinée à une élite intellectuelle ou religieuse comme les scribes et les pharisiens, les sages et les intelligents à qui la révélation était confiée depuis Moïse, mais qui avait fini par devenir une caste de spécialistes, elle est pour les tout-petits, littéralement les enfants en bas âge, auxquels doivent devenir semblables ceux qui veulent entrer dans le royaume. Ce sont eux qui recevront la révélation du royaume et verront clair, tandis que ceux qui se croyaient clairvoyants s'aveuglent. L'attitude de Jésus lui-même est celle du tout-petit, de l'enfant serviteur, doux et humble de cœur, qui se sait le bien-aimé de Dieu, en qui l'amour du Père repose en perfection, et se présente en retour comme totalement disponible pour le dessein d'amour du Père, c'est-à-dire la réunification des hommes dans un royaume où Dieu règne. La présence du Christ est celle de ce royaume. Il s'agit donc de devenir ses disciples, de recevoir simplement la révélation, de se mettre à l'école de ce maître doux et humble de cœur qui vient nous sauver par l'humilité de sa prédication et de sa passion, pour entrer dans la béatitude éternelle. Ceux à qui Jésus s'adresse, ce sont ceux qui ploient sous le poids du fardeau, c'est-à-dire les foules lasses et abattues comme des brebis sans berger, dont il est question un peu plus tôt dans l'Évangile selon saint Matthieu, et c'est-à-dire au fond toute l'humanité. Et le fardeau dont il s'agit, c'est celui des exigences de la loi, des prophètes et des maîtres de sagesse, mais dans le cas du fardeau de Jésus, eh bien, il s'agit avant tout d'une relation personnelle, de nous à lui, semblable à celle que lui-même a avec son Père. Il s'agit de se mettre à son école, c'est-à-dire au fond, de venir à la maison où l'on reçoit l'éducation, ce que saint Jean appelle « demeurer avec Jésus », qui lui-même demeure dans la maison du Père, dans son cœur. Certes, les exigences de Jésus semblent paradoxalement accrues par rapport à celles des scribes et des pharisiens. On le voit dans le discours sur la montagne, dans le même évangile selon saint Matthieu. Mais elles naissent d'une relation personnelle avec un maître doux et humble de cœur en qui se trouve le repos, c'est-à-dire la béatitude éternelle. De même que Dieu se donne à son Fils et se repose en lui pour lui permettre de se donner en retour et de se reposer en lui, Jésus veut se donner à nous et reposer dans notre cœur, dans l'Eucharistie, pour qu'en retour, nous puissions nous donner à lui et reposer sur son propre cœur. Il s'agit ainsi non pas d'entrer dans une morale volontariste, ou au contraire de refuser les exigences de l'Évangile, mais de se mettre à l'école d'un maître qui, bien qu'il connaisse parfaitement nos fragilités et nos faiblesses, veut pourtant nous aider à accomplir en lui la loi d'amour qui seule peut nous rendre pleinement libres. Alors, il est bon aussi de se mettre à l'école du pape François, qui vient comme expliciter cet enseignement du maître, en nous rappelant combien la vie morale est avant tout une réponse d'amour à celui qui nous a aimés le premier. Et que selon la loi de la gradualité, elle doit être vue aussi comme un cheminement vers une liberté de plus en plus grande dans l'amour à travers des petites décisions de conversion, ce que le pape appelle les petits pas de sainteté, qui ont pour effet de configurer progressivement notre cœur à celui du Christ. Le texte de référence, je dirais, dans ce domaine, c'est vraiment l'exhortation « Gaudete et exultate » sur l'appel à la sainteté dans le monde contemporain. Le pape donne des exemples très concrets. « La sainteté à laquelle le Seigneur s'appelle, dit-il, grandira par de petits gestes. » Par exemple, une dame va au marché pour faire des achats, elle rencontre une voisine et commence à parler, et les critiques arrivent. Mais cette femme se dit en elle-même « Non, je ne dirai du mal de personne. » Voilà un pas dans la sainteté. Ensuite, à la maison, son enfant a besoin de parler de ses rêves, et bien qu'elle soit fatiguée, elle s'assoit à côté de lui et l'écoute avec patience et affection. Voilà une autre offrande qui sanctifie. Ensuite, elle connaît un moment d'angoisse, mais elle se souvient de l'amour de la Vierge Marie, prend le chapelet et prie avec foi. Voilà une autre voie de sainteté. Elle sort après dans la rue, rencontre un pauvre et s'arrête pour échanger avec lui avec affection. Voilà un autre pas. Au fond, à travers ces petits gestes, il s'agit de correspondre progressivement au sentiment du cœur de Jésus, c'est-à-dire au fond, la vie des béatitudes. Et le pape le souligne fortement quand il parle de l'importance de la pauvreté de cœur, si proche de l'humilité. Il reprend justement les béatitudes dont on a pu dire qu'elles étaient un autoportrait du Christ, de son cœur. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » L'Évangile nous invite à reconnaître la vérité de notre cœur pour savoir où nous plaçons la sécurité dans notre vie. C'est pourquoi Jésus déclare « Heureux les pauvres en esprit, ceux qui ont le cœur pauvre, où le Seigneur peut entrer avec sa nouveauté constante. » Cette pauvreté d'esprit est étroitement liée à la sainte indifférence que saint Ignace de Loyola proposait et par laquelle nous atteignons une merveilleuse liberté intérieure. Pour cela, dit-il, il est nécessaire de nous rendre indifférents à toutes les choses créées, en tout ce qui est laissé à la liberté de notre libre arbitre et qui ne lui est pas défendu, de telle manière que nous ne voulions pas, pour notre part, davantage la santé que la maladie, la richesse que la pauvreté, l'honneur que le déshonneur, une vie longue qu'une vie courte, et ainsi de suite pour le reste. Autrement dit, pour résumer cette pensée du pape, on pourrait dire qu'il s'agit de vivre au fond à partir de Dieu et pour Dieu, avec un cœur pauvre, c'est-à-dire libre pour aimer. Et à cette pauvreté de cœur est liée la douceur sur laquelle le pape François insiste beaucoup. « Heureux les doux, car ils posséderont la terre. » Jésus a dit « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. » Si nous vivons tendus, prétentieux face aux autres, nous finissons par être fatigués et épuisés. Mais si nous regardons leurs limites et leurs défauts avec tendresse et douceur, sans nous sentir meilleurs qu'eux, nous pouvons les aider et nous évitons d'user nos énergies en lamentations inutiles. Pour sainte Thérèse de Lisieux, la charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s'étonner de leurs faiblesses. La douceur est une expression de la pauvreté intérieure de celui qui place sa confiance seulement en Dieu. Comme le souligne le pape François, ce travail de sanctification, c'est-à-dire de conformation à la douceur et à l'humilité du cœur de Jésus, ne peut s'accomplir que dans la force de l'Esprit-Saint. Dans le passage de Matthieu que nous avons évoqué, Matthieu 11, tout commence par une action de grâce du Fils. « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, Toi qui as caché cela aux sages et aux intelligents, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, tel a été ton bon plaisir. Nul ne connaît le Fils sinon le Père, et nul ne connaît le Père sinon le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. Dans ce passage précisément, la révélation du mystère de la Trinité jaillit non plus d'une théophanie extérieure, comme dans le passage du baptême du Christ, hein, ou au moment de la transfiguration, mais du plus profond du cœur de Jésus. Et c'est ce qu'explique le pape Jean-Paul II dans son encyclique sur l'Esprit Saint. Jésus, dit-il, ne parle pas explicitement de l'Esprit qui est amour dans ce passage, et qui est par là union du Père et du Fils. Néanmoins, ce qu'il dit du Père et de lui-même comme Fils résulte de la plénitude de l'Esprit qui est en lui, qui remplit son cœur, pénètre son propre moi, inspire et vivifie en profondeur son action. De là ce tressaillement de joie dans l'Esprit Saint. L'union du Christ avec l'Esprit Saint, dont il a une parfaite conscience, s'exprime dans ce tressaillement de joie qui, en un sens, rend perceptible sa source secrète. Il en résulte une manifestation et une exaltation particulières qui sont propres au Fils de l'homme, au Christ Messie, dont l'humanité appartient à la personne du Fils de Dieu, substantiellement un avec l'Esprit Saint dans la divinité. On pourrait dire que ce cœur du Christ rempli de l'Esprit Saint est l'accomplissement de toutes les promesses messianiques faites par les prophètes. Dans l'Ancien Testament, ce qui est frappant, c'est que le cœur est mis très souvent en relation avec l'Esprit. Pour nous, l'Esprit, le souffle, va dans les poumons. Pour le Juif, il va dans le cœur. Or, comme le souligne le père Vanois, qui a beaucoup travaillé cette question, l'expérience du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est bien souvent cette expérience d'une incapacité de recevoir dans son cœur l'Esprit de Dieu à cause justement de la dureté de son cœur. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle, écrit Jérémie peu avant l'exil. Un cœur mauvais ne peut pas constituer un réceptacle pour l'Esprit de Dieu. Il le contriste. Mais dans sa miséricorde, Dieu promet au peuple élu, à travers les prophètes, qu'au-delà du châtiment de la rupture d'alliance que sera la déportation à Babylone, il conclura avec ce peuple une nouvelle alliance dans laquelle il écrira sa loi dans le cœur des Israélites comme il l'avait fait sur les tables de pierre du Sinaï. Ce sont les fameuses prophéties de Jérémie 31, versets 31 à 33. Et Ézéchiel ira même plus loin puisqu'il va, de la part de Dieu, promettre un cœur nouveau, une nouvelle création pour accueillir l'Esprit nouveau, en Ézéchiel 36, verset 26. Ce don du cœur nouveau lié à l'avènement du Messie, du Meshia, de loin de Dieu, lui-même rempli de l'Esprit Saint, doit correspondre avec la réconciliation des peuples dispersés et le règne de Dieu au milieu des hommes. À la plénitude des temps, Jésus, conçu par l'Esprit Saint en Marie, est l'accomplissement des promesses faites à Israël. C'est ce que va nous dire Jean-Baptiste, quand il parle de Jésus comme celui qui va baptiser dans l'Esprit Saint. Et c'est ce que va nous dire Jésus lui-même, qui, brûlé par l'Esprit Saint dans sa mission, aura comme désir le plus ardent de communiquer ce feu au monde entier et pour cela de donner sa vie. « Je suis venu apporter le feu sur la terre, dit-il dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 12, et comme je voudrais qu'il fût déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle n'est pas mon angoisse jusqu'à ce qu'il soit consommé. » La Pentecôte sera le fruit ultime de la mission de Jésus, et plus particulièrement de sa passion, où Jésus nous donne la vie, sous la forme de l'esprit d'amour, parce qu'il donne sa vie à travers le don total de la croix. La transformation des apôtres au Cénacle est ainsi l'accomplissement de toutes les prophéties, mais aussi de la mission de Jésus. La Pentecôte, c'est le jour où les Juifs fêtaient à Jérusalem, précisément, le don de la loi au Sinaï, lorsque le doigt de Dieu avait gravé sur des tables de pierre les 10 paroles. Et justement, ce même jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint vient graver dans le cœur des disciples la loi nouvelle de l'amour. On le sait, dans la Bible, le cœur s'exprime par la bouche et les mains. À la Pentecôte, l'Esprit Saint se manifeste sous la forme de langue de feu, car il va donner aux apôtres, avec le don de cœur brûlant, la grâce prophétique de l'évangélisation. Mais cette proclamation sera accomplie par des signes, car par les mains des apôtres se feront de nombreux miracles. Ainsi, on pourrait dire que cette loi nouvelle que le Christ nous donne, c'est comme l'a dit saint Thomas d'Aquin, c'est la grâce de l'Esprit Saint lui-même, donnée par la foi au Christ. Tous les commandements extérieurs, ceux qu'a enseigné la Torah et qui ont été repris par le Christ et approfondis par lui, au fond, ils prédisposent à cette grâce et ils en déploient les effets dans la vie. Mais finalement, cette loi nouvelle, c'est le don lui-même de l'Esprit Saint au cœur des apôtres et au cœur de l'Église tout entière. Saint Jean Chrysostome a pu dire que le jour de la Pentecôte, les apôtres ne descendirent pas de la montagne en portant comme Moïse des tables de pierre dans leurs mains, mais qu'ils s'en retournaient en portant l'Esprit Saint dans leur cœur, devenu par sa grâce une loi vivante et un livre vivant. Que nos cœurs deviennent à la suite du cœur du Christ et dans le cœur du Christ, le livre vivant des commandements de Dieu. C'est la grâce au fond de la Pentecôte et c'est la grâce que nous demandons aussi à travers le don de notre baptême, de notre confirmation, qui est sans cesse à actualiser. Cette loi de l'Esprit, elle nous renvoie ultimement au double commandement de l'amour. Et je cite encore le pape François. En d'autres termes, dans l'épaisse forêt des préceptes et des prescriptions, Jésus ouvre une brèche qui permet de distinguer deux visages, celui du Père et celui du Frère. Il ne nous offre pas deux formules ou deux préceptes de plus, il nous offre deux visages, ou mieux un seul, celui de Dieu qui se reflète dans beaucoup d'autres. Car en chaque frère, spécialement le plus petit, fragile, sans défense, et en celui qui est dans le besoin, se trouve présente l'image même de Dieu. En effet, avec cette humanité vulnérable, considérée comme déchet, à la fin des temps, le Seigneur façonnera sa dernière œuvre d'art. Dans son cœur brûlé, par le feu de l'Esprit, Jésus accomplit parfaitement ce double commandement de l'amour du Père et de l'amour des frères, et c'est ce qu'il veut nous permettre de vivre en lui, par lui, avec lui, dans le don de l'Esprit Saint. L'image du joug qu'il emploie nous renvoie évidemment au mystère même de la croix. Mais en même temps, elle nous assure que Jésus va porter avec nous et en nous ce fardeau que lui-même le premier a porté pour nous. Et qu'ainsi, par la force et la douceur de son esprit, il va le rendre accessible, léger et même béatifiant. C'est donc dans son cœur, rempli de la plénitude de l'Esprit, et en lui seul, que s'éclaire pleinement la loi du Père dans toute sa beauté et toute sa radicalité. Pour conclure sur cette première partie, de présentation de la vie morale comme vie dans le cœur du Christ et dans son esprit, eh bien, on pourrait dire que le Christ seul, qui accomplit dans son cœur la loi d'amour, peut nous en enseigner toutes les exigences. Et on le voit dans le discours sur la montagne, quand il parle du meurtre, de l'adultère, du mensonge, de la vengeance. On voit bien que Jésus pousse jusqu'au bout la radicalité des exigences de l'amour de Dieu. De la même façon, positivement, il peut nous en montrer les exigences du point de vue de la prière, du jeûne, de l'aumône, vécue dans son cœur d'homme, dans le secret de son cœur, parce que précisément son cœur, rempli de l'Esprit, est le lieu où s'accomplit le projet de Dieu sur l'homme et sa béatitude. Donc ce paradoxe, c'est que finalement, Jésus nous ouvre un chemin, qui est le chemin de l'amour dans son cœur d'homme, en employant toute la radicalité et les exigences, mais en même temps en le rendant accessible à tous. Je voudrais maintenant passer à la deuxième partie, qui est précisément une réflexion sur ce double commandement de l'amour accompli dans le cœur de Jésus. La dimension filiale, tout d'abord, donc qui relève des trois premiers commandements de la loi. Le cœur filial de Jésus est évidemment le lieu par excellence de l'accomplissement de l'amour de Dieu, de l'amour du Père. Jésus et lui seul mène en effet à son accomplissement cette première table de la loi en son adoration filiale, dont le sommet sera l'obéissance jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et c'est seulement par lui, avec lui en lui, que les disciples pourront devenir à leur tour les véritables adorateurs du Dieu Père. Car le lieu de ce culte en esprit et en vérité qui est venu introduire le Christ dans notre monde, ce n'est ni sur le mont Sinaï ni à Jérusalem qui doit être célébré, mais dans le nouveau temple que constitue Jésus en son corps glorifié et mieux, son cœur transpercé, d'où jaillissent les fleuves d'eau vive de l'Esprit. Ainsi, adorer en esprit et en vérité, c'est finalement grâce à l'Esprit Saint, adoré en communion avec Jésus, qui se dévoile comme le Fils du Père. À la suite de Jésus, nous sommes appelés nous-mêmes à devenir donc les véritables adorateurs du Père, et pour cela nous est donné comme modèle la Vierge Marie au pied de la croix, et à côté d'elle le disciple bien-aimé qui nous représente tous. Jean, avec Marie, apparaît en effet comme le modèle du véritable adorateur. Lui qui, avec Marie et par elle d'une certaine façon, a pu entendre le cri de Jésus sur la croix, un cri qui résume tout, « J'ai soif », un cri qui exprime, au fond, le désir de Dieu sur nous. Le Père qui se cherche de véritables adorateurs nous crie sa soif par son Fils. Et en même temps exprime aussi le désir du cœur assoiffé du monde et de tout homme qui, qu'il le sache ou non, est en fait en manque de l'amour que Dieu seul peut lui donner. Sur la croix, Jésus mendie notre amour et celui du Père, et il nous apprend à sa suite à mendier son amour et par lui l'amour du Père, mais aussi ainsi à mendier l'amour des frères et à pouvoir à notre tour donner de l'amour au Père et aux frères. Le cri de Jésus, ce cri de « j'ai soif » ne trouve dans un premier temps comme seule réponse que le don du vinaigre qui exprime notre incapacité radicale à nous les hommes à pouvoir donner par nous-mêmes une réponse adéquate à l'amour de Dieu qui nous désire en son Fils. Mais là où nous sommes incapables d'étancher la soif de Dieu, Dieu lui-même fait jaillir par le cœur transpercé de son Fils cette source sacramentelle du sang et de l'eau et des fleuves d'eau vive de l'Esprit Saint et qui vient désormais purifier notre cœur, le transformer et le rendre capable de rendre à Dieu amour par amour en levant les yeux vers celui que nous avons transpercé. Le don paradoxal de l'Esprit Saint, c'est alors au fond de transpercer notre cœur, de briser ce cœur dur, ce cœur endurci qui est le nôtre après le péché originel, pour le transformer en cœur de chair, capable de devenir vulnérable à l'amour de Dieu, à l'amour des frères, capable de se laisser transpercer à la fois par la compassion pour le Christ immolé sur la croix, mais aussi par la repentance dans le fait de percevoir que c'est par nos péchés, par nos iniquités, qu'il a pu être transpercé. Donc, le cœur transpercé de Jésus est le lieu par excellence de l'adoration du Père en esprit et en vérité, comme nous l'avons vu dans la deuxième partie du catéchisme sur les sacrements, il nous est donné dans l'Eucharistie. Et c'est là précisément que nous pouvons rendre au Père l'adoration qui lui est dite par le Fils dans l'Esprit Saint, dans l'Église tout entière. Concernant le deuxième commandement sur l'amour fraternel, je voudrais le décliner en deux temps, à travers deux éléments essentiels de la vie morale, que sont tout d'abord tout ce qui concerne la morale familiale, dont on sait combien elle est importante dans le contexte culturel dans lequel nous vivons, mais aussi ce qu'on pourrait appeler la morale sociale, hein, qui est exprimée à travers la doctrine sociale de l'Église. Tout d'abord, je voudrais souligner le lien entre le cœur de Jésus et ce qu'on pourrait appeler la famille Église de Dieu, hein, qui est la cellule fondamentale de l'Église famille de Dieu et de la société. Le cœur de Jésus, c'est un cœur d'époux. Hein, vous l'avez souligné à propos du développement sur la révélation. On ne peut comprendre la blessure du côté du Christ sur la croix qu'à la lumière du récit de Cana, qui lui-même nous renvoie à la mystique du Cantique des Cantiques. Et donc, c'est vraiment dans le cœur transpercé de Jésus que le sacrement du mariage trouve sa source et qu'il peut trouver un renouvellement incessant pour permettre aux époux de s'aimer non plus d'un amour seulement humain, mais de l'amour même dont le Christ aime l'Église, son époux, jusqu'à se laisser transpercer par elle et pour elle. Et c'est là donc que se trouve, je dirais, la source jaillissante, hein, de l'amour des époux, où l'époux est amené à la suite du Christ à donner sa vie pour son épouse, et qui elle-même est appelée à accueillir ce don et se donner en retour, et ainsi permettre à l'un et à l'autre de vivre cette communion d'où jaillit la fécondité de l'amour, hein, qui peut s'exprimer à travers la fécondité biologique, mais aussi la fécondité, j'allais dire, éducative, et finalement la fécondité spirituelle du couple. La vie de famille vécue dans le sacrement du mariage a quelque chose d'extraordinairement exigeant. Hein, et elle est une véritable consécration, hein, comme l'a dit le Concile Vatican II, hein, notamment dans la Constitution Gaudium et Spes. C'est ce qu'exprime la consécration des foyers au Sacré-Cœur, hein, qui est une tradition très vénérable dans l'Église, et qui notamment s'est exprimée à travers les promesses du Christ, hein, à ceux qui auront chez eux, à la maison, une image de son Sacré-Cœur, hein, et aux familles qui se confieront à son cœur. Cette consécration, elle manifeste que la voie du mariage chrétien est une authentique voie de sainteté pour les époux, hein, et aussi bien sûr pour tous ceux qui font partie de la famille, parce que la consécration vécue par les parents rejaillit aussi sur les enfants, évidemment. C'est une consécration qui engage non seulement l'extérieur, mais aussi l'intérieur, le cœur. Il me semble que c'est ce que le pape Jean-Paul II a voulu exprimer dans ses catéchèses sur le corps, hein, où il essayait de rendre compte de l'enseignement si mal compris de Paul VI sur l'amour conjugal, dans Humanae Vitae, à la lumière d'un parcours biblique depuis la création jusqu'à l'eschatologie, dont le centre est finalement l'histoire, qui est une histoire de péché et de salut, une histoire de rédemption, qui s'exprime à travers cette phrase incroyablement exigeante du Christ dans le discours sur la montagne. Si quelqu'un regarde une femme pour la désirer, il a commis déjà l'adultère avec elle dans son cœur. Le pape Jean-Paul II avait pris cette phrase pour exprimer jusqu'où va la radicalité de l'appel du Christ, qui est une transformation non seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur même, où il s'agit de laisser notre cœur entrer dans ce don total du cœur du Christ pour son Église. Mais cela ne peut passer que par un mystère de mort et de résurrection, hein, qui au fond est en quelque sorte le fondement théologique, hein, de la chasteté conjugale, hein, préconisée avec tant de force par Paul VI dans son encyclique Humanae Vitae. Il y a forcément dans tout amour humain, de par le péché originel, une nécessité d'un renoncement à soi pour pouvoir entrer dans la joie du don à l'autre, qui seul signe le véritable amour, hein, le don désintéressé de soi-même à l'image des personnes de la Trinité qui se donnent, j'allais dire, dans un don total et désintéressé les unes aux autres. Donc cette radicalité de l'amour vécu dans le Christ et dans l'Église, eh bien, elle est permise en quelque sorte dans la vie conjugale à travers le sacrement de mariage et tous les sacrements qui viennent, si je puis dire, l'actualiser sans cesse dans la vie conjugale, la confession, l'Eucharistie, la confirmation aussi, j'aurais dû la citer dans la célébration même du sacrement, et qui permettent bien progressivement au cœur des époux d'être unis l'un à l'autre dans le cœur de Jésus et de Marie, j'ajouterais, pour ne faire vraiment plus qu'un, sous le regard de Dieu, non plus dans une fusion, mais dans une communion qui est expression en quelque sorte de la communion même qui existe en Dieu. Il y a là quelque chose de très fort et de très beau dont il faut souligner, la beauté et la possibilité aussi dans un monde aujourd'hui qui doute de cette possibilité de trouver le bonheur en ce monde et dans l'autre, dans cette vocation qui est pourtant si fondamentale, qui est la vocation au mariage et à la famille. À côté de cette cellule fondamentale de l'Église et de la société qui est la famille, il y a dans la vocation de l'homme et de la femme toute la vocation, j'allais dire, sociale, plus largement même que le cercle familial. Il y a tout l'engagement dans la société à travers ce que la tradition a appelé l'engagement pour le règne social du cœur du Christ et qu'on appelle aujourd'hui l'engagement pour la civilisation de l'amour. Dès les apparitions de Parelmonial, la question de la dimension sociale de la charité du cœur du Christ a été portée par la dévotion au Sacré-Cœur, sous la forme de la demande faite au roi Louis XIV par Marguerite Marie de la consécration de sa personne, de sa cour, de son royaume au cœur de Jésus. Ce thème a été repris à la fin du XIXe siècle sous la forme de ce qu'on a appelé à l'époque la promotion du règne social du cœur du Christ. Malgré les aspects historiquement datés de cette vision, dans un contexte troublé marqué par un laïcisme agressif d'un côté et l'espoir d'une reconquête rapide de la société au Christ de l'autre côté, on doit quand même reconnaître que cette vision de nos pères dans la foi du XVIIe et du XIXe siècle a eu le mérite de permettre de sortir d'une spiritualité de sacristie et d'essayer de faire face aux défis sociaux, politiques et culturels de l'époque. La mise en œuvre de la doctrine sociale de l'Église, mise à l'honneur depuis Léon XIII, depuis son encyclique Rerum Novarum de 1891, est grâce à cette vision apparue comme, à juste titre, comme un enjeu majeur de l'Église de la fin du XIXe et du XXe siècle. À la fin du XXe siècle, cette catégorie du règne social du cœur du Christ a été abandonnée au profit d'une autre terminologie plus adaptée au contexte à la fois culturel, ecclésial et social de cette fin du XXe siècle, le terme de civilisation de l'amour. On sait que ce terme a été employé par Paul VI dans le message de la nuit de Noël de 1975, qui signait la fin de l'année sainte qu'il avait lui-même lancée et qui semble avoir été au fond le concept clé de tout son pontificat. Tout le pontificat de Paul VI a été porté par la vision de l'avènement de cette civilisation de l'amour dont il n'a parlé qu'à la fin, à partir de 1975 et jusqu'en 1978, au moment de sa mort. Mais il a été préparé par son enseignement sur l'Église en dialogue dans sa première encyclique, Ecclesiam Suam, puis sur le développement intégral de l'homme, Populorum Progressio, 1967, et puis les textes, les exhortations apostoliques qu'il va publier en 1975 sur la nouvelle Pentecôte et la joie qui en résulte, Gaudete in Domino, et sur la nouvelle évangélisation, même si le terme n'apparaît pas strictement à ce moment-là, dans son exhortation Evangelii Nuntiandi. Le pape Jean-Paul II a repris cette catégorie de civilisation de l'amour en l'arrimant à celle de miséricorde qui lui était si chère. Il a pu dire que la civilisation de l'amour jaillit du cœur transpercé du Christ. Le pape Benoît XVI, dans Caritas in Veritate, lui aussi articule au fond cette catégorie avec le thème de la charité, qui est au fond une autre manière de dire la même chose, mais qui lui est chère à cause justement aussi de sa contemplation de l'évangile de Jean. Et le pape François reprend aussi cette catégorie de la civilisation de l'amour dans son texte, notamment Laudato si, mais en lui donnant une extension maximale en y voyant non seulement les exigences de l'amour du cœur de Jésus dans l'engagement social, mais même dans l'engagement vis-à-vis de la création. Et il rejoint là la pensée d'un grand auteur jésuite qu'il cite d'ailleurs dans son encyclique, à savoir le père Teilhard de Chardin, qui voyait le cœur de Jésus comme le point oméga de l'univers autour duquel devait se faire finalement ce qu'il appelait l'amorisation de l'univers tout entier, le point focal autour duquel convergeait non seulement toute l'histoire de l'humanité, mais même la création elle-même. Et on retrouve cette intuition géniale, je dirais, dans la pensée du pape, mais qui est inscrite à la fois dans l'Écriture, puisque ça rejoint les grandes hymnes de saint Paul dans les Éphésiens et les Colossiens, mais aussi la phrase de saint Jean, « Quand vous m'aurez élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi ». Mais cela rejoint aussi le magistère, notamment de Gaudium et Spes, fortement influencé sur ce point par la pensée de Teilhard de Chardin, qui voit dans le Christ la récapitulation, la transfiguration de l'univers tout entier. On pourrait dire que la spiritualité du cœur de Jésus, loin d'être une forme de dévotion un peu spiritualisante, nous ouvre sur les exigences de l'amour, à la fois vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis du prochain et même vis-à-vis de la création. Et le pape François le manifeste en particulier en soulignant l'importance des œuvres de miséricorde, très concrètement, les sept œuvres corporelles, les sept œuvres spirituelles de miséricorde. Il a voulu même ajouter une œuvre supplémentaire à travers la miséricorde envers la création. Et pour montrer comment à la fois le cœur de Jésus nous ouvre sur une contemplation grandiose des exigences de l'amour du Christ vis-à-vis de nos frères, avec aussi cette fraternité universelle dont il nous parle dans Fratelli Tutti, mais aussi vis-à-vis de la création elle-même. Et en même temps, comment cette vision grandiose s'incarne dans des actes très concrets de miséricorde vis-à-vis des plus petits de nos frères. C'est là que se construit la civilisation de l'amour. Dans Laudato aussi, il donne en exemple l'attitude de la petite Thérèse dans son Carmel de Lisieux, qui a pu devenir non seulement docteur de l'amour, mais la plus grande sainte des temps modernes, par des petits actes de charité et de miséricorde très concrets envers ses sœurs de son couvent. Et de la même façon, nous tous, nous sommes invités à construire cette civilisation de l'amour qui est comme la préfiguration déjà de la Jérusalem céleste, et bien par les petits actes d'amour concrets dont sont faites nos vies quotidiennes, dès lors que nous les vivons en communion avec le cœur de Jésus, par lui, avec le cœur du Père et des frères. Donc, le cœur de Jésus comme point central de la vie morale et en même temps le lieu de son extension maximale, mais en même temps aussi le lieu de son incarnation dans des petites décisions, des petits pas, comme dit le pape François, des petits actes qui finalement sera ce qui restera de nos vies dans le monde à venir. De nos vies, on oubliera tout, sinon les actes d'amour que nous aurons pu, je dirais, recevoir et donner, car au fond, comme le dit saint Paul, l'amour est éternel. Et tout le reste disparaîtra. Bien, demandons que notre dévotion au cœur de Jésus s'incarne dans des actes d'amour. C'est d'ailleurs le chemin de saint Jean lui-même qui, dans son évangile, nous montre la profondeur trinitaire, si je puis dire, du cœur de Jésus, qui dans l'Apocalypse nous montre comment ce cœur de Jésus est un signe d'espérance donné dans le temps de l'Église, malgré les persécutions du monde, mais qui finalement dans ses lettres nous enseigne que tout cela doit nous conduire à la charité très concrète envers le frère, et notamment le frère qui est dans le besoin. Si quelqu'un voit son frère dans le besoin et qu'il ferme ses entrailles, dit-il, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Voilà comment finalement cette spiritualité du cœur de Jésus s'incarne dans les actes d'amour très concrets que nous pouvons poser au quotidien.
Parcours Cœur de Jésus. C'était étape 7, le cœur de Jésus et la vie morale. Se consacrer au cœur sacré de Jésus. Un parcours en 8 étapes proposé par le Père Martin Prader. Réalisé à la demande et avec le concours de l'association Civilisation de l'amour. À suivre, étape 8, le cœur de Jésus et la vie de prière.